Les médias en guerre contre le nouveau Front populaire. Don't Look Up. Ce film, diffusé en 2021 sur Netflix, relate l'histoire de scientifiques qui alertent les médias et les dirigeants politiques de l'arrivée d'une météorite s'apprêtant à détruire la Terre. Ceux-ci, sourds aux avertissements, exhortent la population à ne pas lever les yeux. Don't Look Up. Cette métaphore évoque ce que médias et politiques mettent en scène depuis plusieurs années et qui se précipite ces dernières semaines. Détournez votre regard de cette extrême droite qui vient, mais tremblez devant cette gauche qui pourrait gouverner. Il semble bien que les campagnes médiatiques contre les candidats de gauche soient devenues de simples routines journalistiques. On se souvient du « cauchemar » Benoît Hamon lors de la primaire citoyenne en 2017, de la panique à propos de Sandrine Rousseau avant l'élection présidentielle de 2022 ou de la haine anti-NUPES au moment des législatives de 2022. À quelques jours du second tour des élections législatives de 2022, le rédacteur en chef du Figaro, Guillaume Tabar, résumait ainsi la campagne médiatique contre la NUPES. Je cite « D'un point de vue tactique, Macron doit susciter un front anti-Mélenchon, c'est-à-dire convaincre les électeurs de droite, de la gauche modérée et même le péniste, de faire barrage à la gauche radicale. » Ce mot d'ordre avait eu du succès dans les médias, mais il n'était pas inédit. Jean-Luc Mélenchon est incontestablement et de longue date l'ennemi médiatique numéro un. Je cite « Mélenchon-Le Pen, le match des populismes. Mélenchon veut nationaliser la France et revenir au kolkhoz. Le Pen-Mélenchon, même danger. Un apprenti sorcier. Haine sociale, communautarisme assumé, antispécisme agressif, racialisme tranquille, c'est woke en stock. Mélenchon, le Hanouna de la gauche. L'imam Jean-Luc Mélenchon. Du Monde au Figaro, en passant par TF1, RMC, France Inter ou les chaînes de débat en continu, depuis 2012 et la première campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, les médias, parfois avec des nuances, n'ont jamais cessé de clouer la France insoumise, et en particulier son leader, au pilori, multipliant vilainie et calomnie. Même Mediapart, qui à la différence des autres médias se positionne dans le camp progressiste, a régulièrement soufflé le chaud et le froid autour du « problème Mélenchon ». Mais depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et la constitution du nouveau Front populaire, les dernières digues de la déontologie ont cédé. Les calomnies et les vilainies d'hier sont devenues les vérités mensongères et les évidences injurieuses d'aujourd'hui. La diffamation triomphe en continu sur les chaînes de débat et la propagande ne connaît plus de limites, avec une arme de disqualification massive. Antisémitisme à tous les étages. Sur CNews, dès le 10 juin, le ton est donné par la journaliste Françoise Laborde, ex-membre du CSA.
Donc oui, il faut absolument, enfin, de mon point de vue en tout cas, faire un cordon sanitaire autour de la France insoumise qui est devenue, au fil des années, un parti profondément antisémite.
Le lendemain, juste après l'annonce de l'Union à gauche, Rutel-Krieff lance sur LCI.
On pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de dérapages antisémites de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches.
Et Géraldine Vosner renchérit.
Je suis assez choquée que vous ayez évacué comme ça d'un revers de main ce problème de l'antisémitisme. Oui. Oser appeler du nom du Front populaire de Léon Blum un mouvement, un rassemblement avec des antisémites.
Yves Tréhard du Figaro vocifère sur Europe 1.
La gauche, c'est la gauche de la honte, c'est le front de la honte, c'est absolument abject. Abject, parce que là, il y a une chose chez eux qui est supérieure à tout dans dans l'abjection, c'est cet antisémitisme.
Le même jour, sur BFM TV, Bernard-Henri Lévy s'interroge.
Comment voulez-vous que ces gens qui ont fait toute la campagne des européennes sur les arguments antisémites, qui ont mis Mme Rima Hassan en tête de leur, quasiment de leur liste. Comment voulez-vous qu'on puisse les croire si, en une nuit, ils décrètent que c'est fini, qu'on efface tout ça, que c'est caduque ?
La question n'est pas clairement formulée, mais la calomnie, elle, est parfaitement claire. Le lendemain sur CNews, c'est l'autre philosophe des médias, d'extrême droite, Michel Onfray, qui déverse sa bile.
D'un seul coup, les antisémites prennent la voie et finalement embarquent tout le monde dans cette aventure. C'est pas un front populaire, c'est un front antisémite, là, pour le coup. Antisioniste, antisémite.
Et violente, comme l'indique Jean-René Van der Plesten aux abonnés du Figaro Magazine, en présentant LFI comme, je cite, « une formation ouvertement antisémite prônant la violence civile ».
L'antisémitisme devient exprimable. C'est la gauche française qui donne le « là ».
S'écrit Dominique Régnier sur LCI le 20 juin, au diapason d'un très large spectre d'une éditocratie qui serait bien en peine de citer la moindre déclaration qui justifierait un tel déluge diffamatoire. Il faut souligner que les imputations d'antisémitisme ne sont pas l'apanage des médias d'extrême droite ou des chaînes de débat en continu. Sur Radio Classique, par exemple, Franz-Olivier Gisbert alerte.
Il faudrait regarder un peu du côté de l'extrême gauche, où est le fascisme, où est l'antisémitisme, etc.
Le 17 juin, sur France Inter, Sophia Aram, plus prompte à cogner sur LFI qu'à soutenir son comparse Guillaume Meurice, monte d'un cran, dans l'humour naturellement.
Combattre le parti de la préférence nationale du droit du sang de Frédéric Chatillon, de Mariani et de leurs amitiés poutinistes et bacharistes en s'alliant au parti de la préférence antisémite et du droit du Hamas ne me paraît pas raisonnable.
Le même jour, sur la même radio, l'essayiste plagiaire Jacques Attali enfonce le clou sans que Nicolas Demorand ne sourcille.
Il y a des candidats totalement infréquentables dans le Front populaire, ce sont les candidats antisémites, explicites ou implicites, qui s'y trouvent.
Le lendemain, c'est au tour de Caroline Fourès d'expliquer encore sur France Inter.
Donc il n'est impossible de nous demander de voter pour des candidats qui tiennent des propos antisémites complices de mouvements totalitaires comme le Hamas.
Dans Libération, le 18 juin, l'ancien patron du journal, Serge Julli, assure que, je cite, « l'antisémitisme d'une partie de la France insoumise abîme ce front populaire ». Sur RTL, Amandine Bégaud se veut plus rétorse et demande à Olivier Faure.
Vous dites pardon, Olivier Faure, il vaut mieux gagner, quitte à ce que ce soit aux côtés de personnes antisémites ou de personnes qui ont tenu des propos antisémites, plutôt que de voir le RN l'emporter. Voilà. C'est ce que vous dites ou pas?
Dans les deux cas, la réponse validerait les accusations ignobles que contient la question. Même technique, quelques jours plus tôt, face à Fabien Roussel.
Sauf qu'il y a eu les prises de position, contre Israël, les propos antisémites, la bordélisation, ça compte plus.
La petite musique résonne même jusqu'à Mediapart et son fondateur. Je cite. Complaisance d'une partie de la gauche vis-à-vis de l'antisémitisme. Mediapart le 20 juin. Les fautes commises d'insensibilité ou d'ignorance par Jean-Luc Mélenchon. Edwy Pelinel le 16 juin. L'inculpation pour antisémitisme est partout. Sur toutes les chaînes, dans tous les journaux et sur toutes les ondes. Le délire gagne également les réseaux sociaux et en particulier Raphaël Enthoven qui poste plusieurs fois par jour des messages calomnieux sur X contre l'union de la gauche. Exemple parmi une cinquantaine. Je cite. Les gens qui veulent faire barrage au RN en votant NFP se trompent. On lutte mal contre l'extrême droite en faisant équipe avec des antisémites virulents ou des soutiens de Poutine. Le 17 juin. Combien de candidats du Nouveau Front Populaire ne sont ni antisémites ni mis en examen pour apologie du terrorisme? Le 16 juin. Fake news en cascade. Ces accusations, aussi délirantes soient-elles, circulent désormais en toute liberté. Et dans les jours qui ont précédé le premier tour des élections législatives, de nouvelles fake news se sont ajoutées à ces calomnies répétées depuis des mois, si ce n'est des années. Exemple 1. Le 19 juin sur LCI, Routel Krief relaie une fake news qui circulait depuis 24 heures dans les médias et sur les réseaux sociaux à propos de la candidate NFP Amal Bentoussi. Exhumée par BFM TV la veille, cette rumeur avait été reprise par CNews, Europe 1, dont Cyril Hanouna, Le Parisien, etc.
Amal Bentoussi, qui a dit « On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande. »
C'est une fake news, madame.
En plateau, c'est Manuel Bompard qui recadre.
« Vous ne pouvez pas attribuer à une personne des propos qu'elle n'a jamais tenus. »
Et qui explique que cette phrase apparaissait sur le compte Facebook de l'association que la candidate co-animait et qu'elle l'a fait retirer dès qu'elle s'en est rendue compte.
« On va vérifier. »
conclut David Pujadas. On y croit. Exemple 2. Le 24 juin sur RTL, Richard Malka.
On a un autre député de ce parti qui relativise le viol d'une jeune fille de 12 ans parce qu'elle est juive, Aymeric Caron.
Yves Calvi glisse un
« On a fait ».
Et quand l'avocat ajoute
« Ce parti a réhabilité l'antisémitisme. Aujourd'hui, on peut être de gauche, antisémite et cool, ça s'appelle LFI ».
Yves Calvi l'interroge benoîtement.
« Et comment on combat ça ?»
Manifestement, il ne s'agit pas de lutter contre les vilainies de Malka, que Patrick Cohen, le 21 juin, avait commencé à répondre.
Lutter contre l'antisémitisme, oui, mais en continuant de le relativiser comme l'a fait Aymeric Caron sur le crime de Courbevoie.
Le député LFI a-t-il relativisé le crime de Courbevoie? Absolument pas. Le 19 juin, il avait diffusé le tweet de François Ruffin qui dénonçait cette horrible viol antisémite, et dans un autre tweet, avait relayé une information du Parisien sur une femme enceinte assassinée par deux hommes, pour la seule raison qu'elle était rome. avec pour commentaire, je cite, « Ce crime raciste, personne n'en parle. Aucun débat sur les chaînes d'infos. » D'ailleurs, toujours le 19 juin, il répète à plusieurs reprises être, je cite, « révulsé par le crime antisémite ignoble dont a été victime cette jeune fille de 12 ans à Courbevoie. » Un programme complètement fou. Si le pilonnage intensif de diffamations pures et simples semble être la dernière nouveauté du journalisme politique, la critique du programme économique du NFP a un air de déjà vu. En effet, à chaque élection, les programmes de gauche sont scrutés, critiqués puis rejetés par une grande partie des médias car jugés trop irréalistes ou trop coûteux. Ce nouvel épisode n'échappe pas à la règle. Jouant le jeu de la majorité présidentielle, éditocrates et journalistes économiques reprennent en chœur le même refrain, ce qu'a documenté Arrêt sur Image dans un article, dont certaines citations ci-après sont extraites.
La campagne est terminée pour eux. La gauche est perdue. Elle a perdu cette campagne. Elle a pondu un programme économique délirant.
Résume Jean-Michel Apathy sur RTL, à 3 jours du premier tour. Délirant ? Assurément pour Nicolas Dose sur BFM TV qui craint
un choc fiscal très violent. On ne respectera plus du tout nos engagements budgétaires européens. Après, si vous augmentez le SMIC, effectivement, ça profite aux gens qui sont payés au SMIC, mais là, on sait qu'on augmente le chômage des peu qualifiés, ça a été encore une fois validé à plusieurs reprises. Il y a une perte de compétitivité pour les entreprises.
Sur France Info, face à Alexis Corbière, la question de l'animatrice vaut tout un édito de droite.
On rase gratis parce qu'il faut tout augmenter, les salaires, l'allocation étudiant, supprimer la réforme des retraites.
Mais oui,
dans un moment où
mais
c'est,
il faut investir
c'est
dans certains...
Fidèle à ses habitudes, François Langlais, sur TF1 le 15 juin, défend courageusement le CAC 40. Je cite « Si la France est seule à taxer les riches, ça ne peut pas marcher parce que quand vous prenez un marteau et que vous le mettez au-dessus de quelqu'un, il y a peu de chances qu'il reste en dessous et qu'il attende tranquillement. » Et quand l'économiste Thomas Piketty tente de défendre durant quelques minutes le programme du NFP sur LCI, il fait face à 5 journalistes d'une rare hostilité. À chaque tentative de réponse qu'il formule, il est coupé par une ou deux voix rendant la séquence inaudible. Le 23 juin. Nicolas Bouzou, dans L'Express, fait mine de s'interroger. Je cite. Il est difficile de dire si ce programme est issu d'une perte de sens absolue, d'un ressentiment contre un pays auquel on voudrait du mal, ou d'une provocation pour être certain de ne pas gagner et donc de ne pas gouverner. Mais sa conclusion s'impose. Je cite. Ce qui est certain, c'est qu'il est une insulte à l'intelligence des Français. D'ailleurs, il peut la reformuler sur LCI, synthétisant la pensée dominante. Je cite. Le programme économique du nouveau Front populaire est complètement fou. La politique d'interventionnisme, d'illibéralisme, de dépenses publiques est beaucoup plus débridée du côté du NFP que du côté du RN. Le 20 juin. Son choix est fait. C'est d'ailleurs le même qu'au Figaro, où on s'inquiète pour ses lecteurs, avec le sens de la nuance. Je cite. Si le programme du RN, très instable, les inquiète, celui du nouveau Front populaire les terrifie. Le 22 juin. Serait-ce le même qu'au Point, qui se fait du souci pour son propriétaire, François Pinault, 7e fortune française d'après Challenge. Je cite. Les 68 milliardaires que compte la France sont loin d'être les seuls visés par cet incroyable matraquage. La mise en pratique de ce projet reviendrait en réalité à asphyxier l'économie de la France. Le 27 juin. On ose y croire. Enfin, la propagande est aussi à l'œuvre sur Arte. Dans son JT du 27 juin, la chaîne présente sur un ton très objectif les mesures sur les salaires et les retraites de chaque programme. Toutefois, à 2 reprises, le politiste Pascal Perrineau attaque les propositions du nouveau Front populaire sans qu'aucun expert ne soit convié pour commenter celles des autres formations. Ainsi, augmenter les salaires reviendrait à, je cite, « orienter la France vers une situation peut-être de banqueroute à terme ». Et réduire l'âge du départ à la retraite, je cite, enverrait un signal détestable à nos partenaires. La campagne médiatique nauséabonde, subie durant 3 semaines par le nouveau Front populaire, rappelle dans les grandes lignes celle que les partisans du non avaient vécue en 2005, lors du référendum sur le traité constitutionnel européen. Mais si, à l'époque, les médias avaient unanimement soutenu le oui, usé et abusé de raccourcis et d'artifices, nous n'avions jamais vu un tel déluge de calomnies débridées, de mensonges et de mauvaise foi. Nous le disions, ces derniers mois, les digues sautent les unes après les autres et l'horizon s'assombrit encore un peu plus sur les médias et sur la société. C'était « Les médias en guerre contre le nouveau Front populaire », un article de Mathias Raymond, élaboré grâce à un travail d'observation collectif des adhérents d'Acrimed et consultable sur le site www.acrimed.org. Spectre.